Tu lis quoi, toi? Vous lisez quoi, vous? Nous lisons quoi, nous?
Naissance, tu étais parfaite. Maintenant, je te dévisage, là devant moi, 16 ans. Je te regarde, je m'émerveille, de la forme de ta figure, de l'arc de tes sourcils, de la courbe de tes lèvres, de la longueur de ton cou, de la force de ton dos, du rebondi de tes joues, de la joie de ton rire, de ton cœur si tendre. Oh Lily, tu es mon chef-d'œuvre. Le passé me poursuit, prédateur qui connaît tous mes regrets, toutes les hontes que je ne peux pas oublier. Mon frère, Ray, fait un grand sourire, sa face partout sur la table du petit déjeuner, et son poing, dans mon ventre, dans l'allée, près du lycée. Il y a 20 ans, à me prendre la monnaie du bus, à me tirer les cheveux, à dire à ses amis qu'ils peuvent en profiter. Et moi, je suis toujours la gamine, incapable de lui dire de dégager. Tous les jours, je regarde ma fille partir. Je la vois s'éloigner, fermer la porte, le fardeau sur ses épaules. J'essaye de ne pas pleurer en pensant à cette force qu'elle a. Je ne sais pas comment, apprise. Et moi, qu'est-ce qu'il me reste? Je me plante dans sa chambre, j'observe les photos sur ses murs. Elle serait furieuse si elle savait que je suis là, à tripoter ses trucs, à tenter de me frayer un chemin jusqu'à ses pensées. Je dis à Lille que c'est tout ça qu'elle va laisser derrière elle. Et c'est cette pensée-là, la plus triste de toutes.
La voix que vous avez entendue, c'est celle de Julie, qu'on accueille dans notre émission On lit quoi nous. Bonjour Julie.
Bonjour.
Oui, ce sera un On lit quoi nous un peu spécial, puisque cette fois-ci je suis évidemment avec Véro. Bonjour Véro.
Bonjour Monsieur Simon.
Mais aussi avec Julie Charbonnel. Comment vas-tu?
Ça va.
Bon. Julie, tu es apprentie à la librairie Aime Lire. Voilà, on avait envie d'avoir une voix un petit peu neuve dans cette émission.
Ah oui, oui, tout à fait. Une belle voix.
Voilà, donc on t'a convié. Donc merci pour cette lecture. Cette lecture, c'est un extrait de Riposte de Louzarède. On en reparlera plus tard dans l'émission. Mais comme d'habitude, on va commencer en musique avec un petit extrait. Hein, voilà. Aujourd'hui, on va écouter le nouvel album des Ogres de Barbac qui va nous accompagner, le quatrième retour, qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Et on va commencer par un premier extrait qui s'appelle Dicastérion. On retrouve les Ogres de Barbac, Aldebert, Oriane et René Lacaille.
En vertu des boîtes qui me sont conservées,
selon la dégustation des doigts de la pomme,
je déclare la séance de perte.
Mesdames et messieurs, la cour de la cour de récré, avocat du jardin, mise en délibéré, vous voici prévenus, veuillez vous éveiller, la sentence est rendue, vous pouvez respirer. La cour de Maracassation vous assigne à la prudence, après délibération du tribunal de grande danse, le monde vous condamne à l'humanité, l'avenir vous dédouane, vous devez respirer.
Vous faisiez la sourde oreille lorsque nous chantions à tue-tête de laisser les abeilles butiner sur la planète. Le verdict est tendu, c'est pour l'éternité. La scène est capitale, vous devez respirer.
Mesdames et messieurs, la cour de récré, avocat du jardin, mise en délibéré. Vous voici prévenus, veuillez vous éveiller. Le silence est rompu, vous devez respirer.
Mesdames et messieurs les jurés de la cour de récré, nous avons fait le tour. Après moulé débat, selon les modalités prévues par la voix, vous pouvez respirer.
Procureur des jardins publics, avocat du bardeau, mage extra partie civique, peuple des tribunaux. Nos procès sont finis, le coupable est résigné, la sentence est jolie, vous pouvez respirer.
Mesdames et messieurs, la cour de récré, avocat du jardin, mise en délibéré. Voici prévenu, veuillez vous éveiller, la sentence est rendue,
vous devez respirer.
la mesure se balance, l'audience nous appelle, la présidente danse, la greffière se rebelle, la vindicte est populaire, la sentence est prouvée, veuillez noter notre air, vous pouvez respirer.
Mesdames et messieurs, la cour de la cour de récré, avocat du jardin, remis en liberté, vous voici devenu enfin libre et éveillé.
La sentence est revue, vous pouvez respirer.
Allez, vas-y, respire.
Donc de retour, c'est le nouvel album des Ogres de Barbac avec le personnage Pitocha. Pitocha, c'est un personnage qui a été créé en 2003 pour le premier disque des Ogres de Barbac pour les enfants. Ce Pitocha, en fait, c'est un personnage qu'on va suivre dans toutes ses aventures. Il voyage beaucoup et c'est vrai que dans chaque album des Ogres de Barbac, il demande à des artistes en fait, de les accompagner. Et c'est vrai que sur les premiers albums, on avait des gens aussi divers que de Tiken Jaffacoli. Oula, j'arrive du mal à le dire. Enfin, des gens un peu de partout. Dans cet album, il y a 16 chansons, il y a quasiment 16 invités. Enfin, chaque chanson s'est fait avec des artistes tels que Charles-Élie Couture, Francis Cabrel, Aldebert, Juliette, Esquelina, Maria Mazzotta, l'Orchestra Silbanda, René Oriane Lacaille, ma petite qu'on a écoutée tout à l'heure. René Oriane Lacaille, c'est eux qui font de l'accordéon et tout ça. Mmh. Et c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, c'est vraiment un vrai voyage musical parce que chaque chanson nous emmène dans l'univers à la fois de l'artiste qui est invité. Et puis on retrouve évidemment l'esprit des Ogres de Barbac qu'on connaît très très bien.
L'illustration de leur album, c'est...
Oui, tout à fait.
C'est encore toujours non.
Non, c'est... comment s'appelle-t-il ?
Les Nawik, c'était... Les Nawik, avant, non. Il y a longtemps.
Non.
Ah ben voilà, non. Ça commence.
Non, là, non, pour celui-ci, je ne savais plus. Voilà, je cherche et ne trouve pas.
C'est pas très très grave.
Merci. Hein.
Si, c'est grave. Un illustrateur est important.
Oui, tout à fait. Parce que il faut dire à nos auditeurs qu'il n'y a pas que le CD. Hein, il y a aussi évidemment un livre magnifique illustré par Éric Fleury et mis en page par Lionel Le Guen. Et c'est vrai que c'est vraiment des beaux albums. C'est publié par le label Irfan qui suit en fait les Ogres depuis le début. Je pense que c'est leur label en tout cas. Et c'est eux qui ont réédité notamment le Pierre Perret récemment aussi, revisité par les Ogres et ses amis. Donc voilà, c'est un très bel album. Si vous voulez faire plaisir, il y a Noël qui arrive. Je pense que ce sera une très bonne idée. On écoutera deux autres morceaux dans cette émission. On continue avec juste un petit peu d'actualité. C'est comme d'habitude l'actualité.
Rature de la jeunesse. Voilà.
Est-ce qu'il y a des jingles, Julie?
Si tu veux faire un jingle, tu peux faire un jingle.
Cette actualité, c'est le Grand Prix de l'illustration de Moulins qui est tombé. Alors, on voulait en parler un petit peu parce que c'est un Grand Prix comme ça dont on parle assez peu. On parle beaucoup des pépites, on parle beaucoup des prix à Bologne, des prix sorcières, des choses comme ça. Et en fait, à Moulins, en fait, il y a un musée, c'est le musée de l'illustration. Alors, je vous invite vraiment à le découvrir parce qu'il y a de très beaux noms qui exposent là-bas.
Vous y avez été, Monsieur Simon, déjà ?
Non, pas du tout.
Ben, moi non plus.
Je faisais mine que j'y étais allé, mais il n'y aurait pas du tout. J'ai vu des photos. Non, j'ai vu des images et surtout, j'ai vu la liste des gens qui ont exposé là-bas et ça donne vraiment très, très envie. Et pareil, les gens qui sont récompensés par ce Grand Prix de l'illustration, je vous cite juste la liste. En 2015, Michel Galvin. En 2016, Emmanuel Houdard. 2017, Beatrice Alemania. 2018, Pauline Kaliujni. 2019, Rebecca D'Outremer. 2020, Lorraine Capelli. Et 2021, Johanna Cancero. Et donc là, en 2022, c'est Isabelle Simler. Je sais que Véro, vous adorez cet artiste.
Très, très je vois des traits de couleur partout.
C'est sa technique si particulière comme ça. Donc, ne serait-ce que la sélection en fait, de tous les vainqueurs et vainqueuses, je ne sais pas si on dit, les lauréates, mérite qu'on s'attarde sur ce prix.
Ouais,
donc,
il y a des grands noms.
Bravo à Moulins.
Bravo à Moulins, bien sûr.
On continue et on va, alors je vous explique un peu le principe de l'émission, évidemment, si vous ne la connaissez pas. Donc on va remonter l'âge, ce qui me permet de dire aux éditeurs que là, qu'il y a des livres pour tous les âges. On va commencer par la petite enfance et comme d'habitude, comme on va remonter tranquillement jusqu'au roman ado. On ne vous a pas dit, dans cette émission, on a une petite surprise, puisqu'on a reçu quelqu'un à la librairie. Et cette personne, c'est Alexandre Chardin. Et on lui a demandé de nous faire une petite interview pour la sortie de son dernier roman. Donc, on verra ça en fin d'émission. C'est notre petit cadeau. On va essayer de le faire à chaque fois. Maintenant, on a eu Clémentine Beauvais la dernière fois.
Ça défile.
Là, on a eu Alexandre Chardin. Oui, ou ailleurs. Mais en tout cas, on va essayer de choper à chaque fois des auteurs quand on en verra pour leur demander quelques mots pour l'émission. Ça permettra d'agrémenter notre émission. Allez, on commence par les tout-petits. Et pour les tout-petits, bah, ça fait partie, il y a des grands noms, hein. C'est la fin d'année, donc il y a les grands auteurs qui débarquent. Et si on parle de petite enfance, dans les grands auteurs, on a forcément Mathieu Maudet. Mathieu Maudet qui nous revient avec son nouvel album, ça s'appelle Une journée au soleil, il y en a quasiment un par an. Alors, il y a des fois... Quand je dis ça, des fois, ça peut paraître un peu péjoratif, mais là, pas du tout. On est à chaque fois ravis, étonnés, surpris et vraiment surtout très contents pour les enfants qu'il y ait un nouveau Mathieu Maudet tous les ans.
Tous les ans, j'ai l'impression que c'est plus souvent. Quoi.
Des fois, c'est deux par an.
Des fois, il triche, voilà. Il en met deux.
C'est ça. En tout cas, là, celui-là, il est vraiment super. Ça s'appelle Une journée au soleil. On va suivre trois amis. On les voit sur la couverture. Donc, il y a un chien, un canard, un cochon. Et les trois, ils sont coincés à la maison parce qu'il pleut. Et ils s'embêtent un petit peu. Ils vont, comme le font pas mal d'enfants, essayer d'inventer quelque chose pour sortir de leur ennui. Et donc là, par exemple, ils décident d'utiliser l'armoire à voyager. Puisque dans l'armoire à voyager, il y a un super bouton. Et si on appuie sur ce bouton, par exemple, si on appuie sur le bouton soleil, il y a plusieurs boutons en fait. Si on appuie sur le bouton soleil, paf, on se retrouve au soleil. Et si on appuie sur le bouton mer, et ben on se retrouve à la mer. Super. Donc ils vont évidemment essayer de faire ça. Ça ne va pas se passer exactement comme ils avaient prévu. Hein. Puisqu'à chaque fois, quand ils appuient sur ça, ils sont sur le soleil. Donc il fait très très chaud sur le soleil quand même, un peu trop chaud. Ouais. Quand ils appuient sur la mer, ils sont dans la mer. Il y a des grandes vagues et tout. Voilà. En fait, voilà, je vous montre parce que ne comprend rien du tout. Donc en fait, ils s'ennuient, hop, ils vont dans l'armoire, ils ouvrent l'armoire, voilà, ils sont tous contents.
C'est Narnia quoi, Narnia pour les tout-petits.
Ils appuient sur le bouton, mais en fait, comme il y a des petits onglets, c'est l'enfant qui va appuyer sur les boutons.
Donc, et là, il fait très 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 froid.
Voilà, bah oui, parce qu'ils ont appuyé sur neige.
Et comme ils sont habillés pour la mer...
Bah oui, parce qu'ils pensaient avoir le soleil, mais ils sont trompés de bouton.
Ah là voilà. Là
et
là.
Et donc
là.
L'enfant va pouvoir aussi se tromper de bouton, puisqu'il y a des petits onglets où il peut appuyer.
D'accord.
Et voilà, je ne sais pas si elle a compris. Vous avez compris, Julie ?
Moi, j'ai compris.
Ah, super.
C'est un super album.
Ouais, non, franchement, c'est super. C'est vraiment un livre où on va jouer avec les enfants, avec les tout-petits. Et puis on retrouve le dessin tellement malicieux de Mathieu Maudet. C'est toujours publié, évidemment, chez Loulou et compagnie. Et c'est notre coup de cœur. On commence directement par un coup de cœur. Allez, on enchaîne avec un autre livre qui aurait pu être en petite enfance, puis qui finalement j'ai mis en album.
Oui.
C'est un très, très bel album d'un auteur italien qui s'appelle Niccolò Carozzi.
Carozzi. Oui, on est chez Albin Michel et ça s'appelle Hardy comme une souris. Et c'est une petite souris qui se balade dans la maison et qui découvre le poisson dans son aquarium et elle a envie de jouer avec lui. Ce qui est intéressant dans cet album, on est sur de la pleine page et on est au niveau des petits animaux qui s'amusent. On se met à leur niveau, on est un peu avec eux, on est invité à jouer avec eux. Et donc la souris va s'amuser avec le poisson, s'amuser avec une paille, à faire des bulles dans l'aquarium. Elle nage dans l'aquarium, il s'éclate vraiment beaucoup. Sauf qu'il y a trois autres joueurs qui arrivent et qui veulent participer. On voit trois ombres, deux matous, qui ont bien l'intention de s'amuser comme des fous avec le poisson. La souris est désespérée, il faut absolument qu'elle aide son amie. Elle a une idée, elle sert d'appât, elle part en courant. Et puis c'était une idée très courageuse, sauf qu'elle se retrouve coincée dans le placard. Et elle s'adosse à trois gros sacs de croquettes pour chat, et c'est ça qui la sauve. Les gloutons vont engloutir ces croquettes. Pendant ce temps-là, la souris va pouvoir partir, mais ce n'est que partie remise. Une fois qu'ils seront repus, ils vont chercher le poisson à nouveau. Donc, elle décide une chose incroyable avec ses copines, elle va sauver le poisson. Et rien, alors il y a très peu de texte. Tout est dans le mouvement de l'histoire, de l'aventure. Mais quand on voit ces souris aller pêcher le poisson dans son aquarium et aller le mettre dans une petite tasse à moitié remplie d'eau, avec sa belle petite queue rouge qui dépasse, pour le maintenir en vie jusqu'à l'étang, ils vont quand même traverser la rue, le jardin, le parc, enfin tout ça, le pont, avec le poisson dans sa petite tasse pour aller le mettre dans l'étang. C'est réjouissant, c'est magnifique, on y est, ça finit bien, il est dans son étang. Était-ce vraiment une bonne idée ? Et le poisson s'élance en l'air en disant « Oh oui !» C'est une belle histoire d'amitié, de liberté. Et on sort du cadre, c'est merveilleux.
C'est un super travail aussi d'illustration, hein, Niccolò Cardi. Oh, c'est vraiment très très beau. C'est très précis, presque réaliste à certains passages.
Tout à fait, ouais.
Les chats sont bien flippants aussi.
Des couleurs très douces aussi.
Très peu de texte, mais avec une illustration qui est très dense. Et puis il y a de l'aventure. Quoi.
C'est ce niveau, on est au niveau de la souris, on est au niveau du poisson. Et ça, des points de vue comme ça, c'est super intéressant.
Et puis une très belle histoire d'amitié. Ouais, c'est un très très bel album qu'on peut conseiller à partir de 3 ans.
3 ans, oui.
Bon, super. Je ne vais pas en parler très très longtemps, mais je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de grands auteurs qui revenaient pour cette fin d'année. Donc on ne les présente pas, mais on vous signale quand même qu'il y a un excellent Chris Houghton avec Bravo Maman Manchot qui est juste un plaisir à lire, à lire à voix haute. C'est vraiment comme d'habitude. Hein. Or, c'est vrai que Chris Houghton, on s'arrête souvent sur le graphisme parce qu'il a ce côté très impressionnant et puis tellement marquant, ça qu'on voit tout de suite que c'est un livre de Chris Houghton. Mais il faut se rappeler que c'est un super
Mais à chaque fois, c'est
auteur.
Nouveau, à chaque fois, c'est surprenant.
Et puis, il écrit super bien pour les petits. C'est-à-dire que c'est des albums qui se lisent à voix haute
c'est
de manière assez remarquable.
C'est animé, c'est cinématographique, son style.
Donc là, on va voir la super maman Manchot qui...
Sacré
va partir chercher à manger et qui va ramener tout. Et son petit manchot qui est resté, son petit-fils qui est là avec son papa et qui est là, ah, bravo
qui
maman,
peur,
manchot,
qui a peur pour sa maman,
elle,
mais
voilà.
Qui est exalté aussi.
Et puis, la force de Chris Houghton aussi, c'est qu'il fait des liens avec l'ensemble de la littérature jeunesse. Là, il y a un côté quand même très bébé chouette.
Dans l'attente de la maman qui doit revenir.
Bah, le petit manchot qui demande à chaque fois, elle va revenir, hein, maman, comme faisait le tout petit dans les trois bébés chouettes. Donc voilà, un très bel album. On a aussi un Gaston Grognon, hein, qui trouve toujours tout nul. Donc là, cette fois-ci, c'est Noël qui est nul. Donc, enfin, un album sur Noël qui est un peu
qui
drôle. Hein, ça fait bien. Donc, ça,
non,
c'est plutôt
pas
bien. Donc, c'est Max et Suzanne Lang chez Casterman. C'est toujours aussi bien. Et puis, on a un nouveau aussi, Lou Gris. C'est Lou Gris part à l'aventure de Gilles Bizouerne et Ronan Badel. Et c'est toujours un plaisir de retrouver Lou Gris. Ça, c'est chez Didier Jeunesse. Voilà pour les grands titres. On continue avec un autre coup de cœur. Je vais demander à Julie. Julie, est-ce que tu peux nous présenter l'un de tes coups de cœur de cette fin d'année ?
Du coup, moi, je vais parler de Perlin, l'enfant qui faisait tomber la pluie. C'est de Siegfried Turckheim. Je m'excuse si j'ai écorché le nom. Et c'est publié au Seuil. Et donc, en fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui naît avec un pouvoir un peu miraculeux, celui de contrôler la pluie, contrôler les nuages et faire apparaître la pluie. Et tout de suite, il va mettre, avec l'encouragement de ses parents, mettre son pouvoir à profit et aider les villes, les populations à les sauver de la famine, de la sécheresse. Et il va avoir un vrai succès grâce à ça. Mais forcément, comme toute bonne chose, les gens s'habituent et finissent par l'oublier et à même le critiquer. Lui va très mal le vivre, puisqu'en fait, c'est dès son enfance, et on le voit grandir au fil de l'album et devenir un jeune adolescent et se s'isoler complètement du reste du monde, jusqu'à ce que lui vienne une idée qui va mal tourner et se retourner complètement contre lui, alors qu'il voulait bien faire. Celui de faire apparaître la pluie dans le désert du Sahara. Sauf qu'en faisant ça, il va malheureusement plonger sous l'eau un village très perdu, tout petit village. Et l'opinion s'empare de ça, ça fait polémique, ça fait scandale et il est complètement rejeté. C'est un très très bel album. Alors ça finit pas sur ça, ça se finit bien, je précise.
Oui, une petite finit note sur positive
une
à la fin. Qui donne envie d'ailleurs de relire l'album en entier.
Exactement.
De revenir comprendre.
Je parle de la fin parce que j'explique.
Non, on va la laisser.
Je laisse la surprise. C'est une très très belle fin, une petite touche d'espoir qui donne un côté très très lumineux à l'album. Il est d'ailleurs très lumineux tout le long. C'est des illustrations superbes, très réalistes, avec plein de couleurs pastel et un peu comme sur le
Parodi, ouais.
Le Carodi, on a ce même camaïeu de couleurs très pastel, tout en jaune, rose, gris, un peu granuleux.
C'est marrant parce que c'est un livre sur la pluie. Enfin, sur, il a ce pouvoir de faire la pluie. Et pourtant, il y a plein de couleurs, il y a plein de lumières qui sont très, très belles.
Il y a beaucoup, beaucoup de lumières dans cet album. Et c'est très épuré. Le texte est sublime. C'est tout en rime, très poétique.
Et c'est pas lourd parce que en fait les textes en rime des fois ça peut être un risqué sur l'album, c'est-à-dire que il y a un peu le processus qui vient en place et puis non c'est un peu lourd. Là il réussit à garder cette légèreté tout au long de l'album et puis garder aussi une certaine forme de gravité parce que c'est un album aussi qui va parler du fait de grandir, aussi du harcèlement, enfin pas du harcèlement mais en tout cas comment l'opinion, de l'isolement d'un ado, enfin donc c'est vraiment très très beau. Il y a plein de thématiques en fait cachées.
Il y a plein de thématiques et puis c'est un album pour les grands, mais le texte n'est pas si long que ça. Ça se lit vraiment tout seul. Et on oublie presque en fait, que ça rime tellement le texte est léger et correspond totalement à l'histoire et l'image. Et y a des, il joue vraiment avec les plans en, prenant des, en faisant parfois des gros plans, des contre-champs et parfois des pleines double pages qui sont sublimes. Et vraiment un très très bel album, gros coup de cœur. Voilà. Et pour parler un peu de l'auteur, c'est son premier livre. À lui tout seul, qui l'écrit et illustre. Il avait d'abord illustré L'apprenti conteur de Gaël Aimon l'année dernière, je crois.
C'était un roman chez, à l'école du loisir.
L'école du loisir, exactement. Et sinon, il est designer et compositeur, mais voilà, se passionne depuis toujours pour le dessin.
En tout cas, on a bien envie qu'il fasse d'autres albums.
Exactement, on a un auteur à suivre.
C'est au Seuil Jeunesse.
Je chercherai la petite maison, là, mais c'est le Seuil.
En tout cas, un très, très bel album, effectivement, un auteur à suivre absolument. Véro, vous voulez nous présenter un bel album pour les un petit peu plus grands peut-être ? Quoique celui-là est déjà plus grand.
Oui, j'ai du mal à donner des âges là-dessus. C'est-à-dire que c'est un voyage dans le temps.
Peut-être on peut commencer par le titre.
Oui, ça s'appelle Au début. C'est Romain Badescu et Julia Spir. Et voilà, j'ai été vraiment séduite. On tourne les pages et en tournant les pages, on est au départ en juillet 2020, on tourne les pages, il y a des personnages dans un jardin, des personnes, une famille, des enfants qui jouent, des œufs dans des nids, des oiseaux avant les œufs. On arrive en septembre 2015 et puis en octobre 2014, toujours le même endroit, des bébés dans les bras des parents. On est en mai 2002. En septembre 1997, on a des petites scènes du quotidien à chaque fois. De temps en temps, on fait une petite intrusion dans la maison. Et dans l'arbre, il y a des fruits. Et parfois, c'est la nuit aussi. Il y a un bébé qui dort. Voilà, c'est toute la vie d'une famille. On va remonter comme ça, en tournant les pages, parce que là, j'ai choisi de descendre le temps, jusqu'à 1952, où des enfants ont été se baigner. Dans la mer, très bleue. On a l'impression qu'on est dans le sud hein, de la France, je ne sais pas, mais dans le sud. Et en remontant, ils découvrent un effluier avec des fruits. Et ils vont cueillir ces fruits, ils vont les ramasser, les mettre dans la poche de leur tablier. Et puis, ils vont les manger. Et puis, ils vont cracher les morceaux dans le jardin, comme ça. Et le néflier va prendre vie et pousser et devenir un magnifique arbre qui propose des fruits chaque année. Et jusque-là, alors je n'ai pas calculé, 2052, on est à 60 et quelques années, c'est
70
ça
ans,
70
près,
ans, ouais.
68.
Ouais. Et en plus, ce qui se passe, c'est qu'on peut recommencer, on peut aussi, on inverse, voilà, il y a deux couvertures, on inverse la tête bêche, la quatrième de couverture, et on remonte de 1952 à 2000. Là, on comprend l'évolution de l'histoire, mais ça se lit aussi très bien dans l'autre sens. Et il s'agit de dessins de Julia Spir. Alors, rappelez-moi vous, ce qu'elle avait fait.
J'espère, elle a publié pas mal d'albums chez Casterman notamment, et puis un peu chez pas mal d'éditeurs, chez Didier, au Seuil, chez D'accord. Albin. Et elle publie aussi, elle illustre beaucoup dans Télérama.
Oui, bah c'est pour
qui,
ça que
elle
son...
illustre beaucoup les dossiers en fait qui
son
sont.
Son dessin me paraît familier. Oui.
Et c'est aussi elle qui illustre les couvertures des pages souvent. Je
oui.
sais qu'elle en a fait plusieurs.
Du
fait,
magazine
ouais,
Page, pardon, je suis pas devant mon micro, c'est pas bien. Et il y a une grande naïveté dans son dessin, mais il est extrêmement lumineux, c'est magnifique. C'est des tranches de vie et puis surtout une remontée dans le temps avec. C'est très subtil des modes de l'époque, des années et tout. On va reconnaître quelques tout petits détails. C'est une belle immersion. À travers la vie d'un effluier.
En même temps, ça répond aux exigences de l'éditeur. Hein. Les grandes personnes, on sait, ils sont très, très pointueux dans l'objet livre, déjà. Et c'est vrai que là, ce livre qui se lit dans les deux sens...
C'est assez original.
C'est vraiment original et c'est tout le talent aussi de Ramona Badescu comme autrice. de pouvoir faire lire le texte dans les deux sens. Ça, c'est vraiment, ouais. C'est vraiment une super autrice, moi, que j'aime beaucoup. Merci, Véro. Julie, on voulait vous faire intervenir sur une autrice, enfin sur une illustratrice que tu aimes particulièrement. Cette illustratrice, c'est Julia Sarda. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton coup de cœur?
Oui, donc Julia Sarda, c'est une illustratrice espagnole. Elle vit à Barcelone. Elle a d'abord commencé pour un grand studio comme coloriste et aujourd'hui elle fait beaucoup d'illustrations un peu partout, mais surtout du coup en littérature de jeunesse. Et elle vient de paraître Léna et le Seigneur des Amanites, écrit par Myriam Daman. Encore une fois, je m'excuse si j'écorche le nom, et Nicolas Digard, et donc illustré par Julia Sarda. Léna et le Seigneur des Amanites, c'est c'est une histoire vraiment aux allures de conte. Ça raconte l'histoire d'une forêt où Léna passe le plus clair de ses journées à naviguer sur la rive et à emmener les passants, et notamment son ami Oren qu'elle croise très souvent, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et quelques jours plus tard, elle croise un crapaud un peu étrange, le Seigneur des Amanites, qui l'invite à passer la nuit dans son grand manoir un peu souterrain, très effrayant, très étonnant, avec une interdiction, c'est qu'elle rentre dans une certaine pièce. Donc on voit clairement, moi j'ai vu la référence à Barbe Bleue, exactement. Et bien sûr, comme dans Barbe Bleue, Léna va ouvrir la porte.
Elle va le faire, mais sinon c'est pas drôle.
Exactement. Je laisse la surprise encore une fois. C'est vraiment un album, il peut paraître très sombre, parce qu'elle a vraiment des motifs assez mystérieux, assez des couleurs très, très chaudes dans le noir, le marron.
Mais déjà, ses couves sont quasiment toutes noires. Quoi. Elle part déjà du noir qui est très important.
Les couvertures sont déjà très noires. Et pourtant, je trouve qu'elle arrive toujours à rajouter une touche de couleur assez étonnante, même au sein des illustrations.
C'est marrant, c'est très automnal d'ailleurs.
Oui, on est typiquement dans la vibe saison. Un peu spooky, la saison automnale d'Halloween, c'est vraiment parfait pour on est pile le bon mois. Et elle va vraiment des fois presque à la limite du surréalisme, avec des formes très géométriques, un peu architecturales. Enfin, c'est vraiment une illustratrice que j'aime beaucoup. Elle avait aussi fait avec le même, avec ce même trio, ils avaient publié Le Talisman du Loup.
Ça, c'était très très beau.
C'était
aussi,
très très beau. Encore une fois, vraiment conte avec des un peu à l'ancienne, avec des allures de classique entre une jeune femme.
Et ça, en le lisant, on a l'impression que c'est déjà des classiques.
C'est
en fait,
déjà des classiques, exactement. Enfin, moi, ça me.
Il y a une grande maîtrise, je trouve, de la forme aussi, du conte classique. Mais en revisitant des thématiques ou des choses comme ça. Et...
Ça rajoute une touche de modernité quand même, un peu de fraîcheur. On est loin de la princesse qui attend son chevalier ou quoi que ce soit. Mais il y a une touche de conte aux frères Grimm, un peu flippante presque des fois.
Les contes sont
toujours flippants.
Ouais. Mais à chaque fois, ça se termine bien. Il y a une vraie note d'espoir à chaque fois. Et dans tous ces albums, on retrouve aussi cette volonté de parler de la nature, de l'homme au sein de la nature, mais avec beaucoup de respect, d'humilité, et d'arriver à lier les deux sans que l'un prenne le pas sur l'autre. Et je voulais aussi parler d'un troisième album qui a été publié cette fois chez Kaleidoscope, et qu'elle écrit et illustre, Julia Sarda, La Reine et les Trois Sœurs, qui est sortie l'année dernière, et qui cette fois raconte l'histoire de trois sœurs, après un rêve étrange, qui décident de fuguer le temps d'une nuit et de partir en pleine forêt. Et elles atterrissent en fait dans un monde un peu imaginaire, un peu souterrain encore une fois. Donc on retrouve vraiment ces motifs très sombres, très mystérieux.
Très caverneux.
Mais là encore, y a une imagination qui est folle dans les motifs, dans les références à la mythologie et au conte Alice au Pays des Merveilles aussi. On retrouve vraiment cette référence-là. Et c'est un texte cette fois plus long. Avec un peu ce côté récit initiatique de jeune fille, mais c'était aussi un très très bel album pour les à partir de 6 ans, 7 ans. C'est vraiment super à lire, et pour faire découvrir ce côté conte plus moderne.
Et puis on vous conseille les trois, son travail d'illustratrice avec Myriam Daman et Nicolas Digard, ça c'est chez Gallimard Jeunesse.
Exactement.
Et puis son travail d'autrice et illustratrice, ça c'est chez Kaleidoscope. Merci Julie. On passe tout de suite, évidemment on en présente plein, mais il en faut un, c'est les génériques coup de cœur.
Mmh. des coups de cœur.
Un océan d'amour de Peter Gao de Sabos. Pingouin voguait depuis longtemps déjà. Pendant tout ce temps, il transportait une valise, une lanterne et un grand secret. Enfin, il amarra son bateau au quai. Pourtant, il aurait préféré rentrer tout de suite chez lui. Il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Lentement, il gravit le chemin de la dune. Le bateau paraissait de plus en plus petit et la maison du phare de plus en plus grande. À chaque pas, ses pieds s'alourdissaient. Au sommet de la dune, il s'arrêta un instant. Il ferma les yeux et compta jusqu'à 10. Pingouin ? Ours passa sa tête dehors et regarda son ami d'un air étonné. « Bonjour, ours, » répondit Pingouin. Il poussa un soupir et baissa les yeux. « Je suis venu te dire quelque chose d'important. » Pingouin hésita et retira une bouloge de son bonnet. « Je suis amoureux de toi. » Ours fixa Pingouin, surpris. Puis il éclata de rire. « Amoureux ? De moi ? Mais enfin, ce n'est pas possible, regarde, on est complètement différents. » Pingouin observa timidement Ours dans le miroir. « Je sais, dit-il doucement, pourtant, ça n'empêche pas l'amour. » « L'amour ?» répéta Ours. « Mais qu'est-ce que c'est, l'amour ?» Pingouin se mit à rougir et vite il but une gorgée d'eau. « C'est très difficile à expliquer, commença-t-il. L'amour, on le ressent à l'intérieur de soi. C'est comme une drôle de tempête dans le ventre. On dirait que ça tangue dans ton corps et ça fait des chatouilles dans les orteils. » Ours se pencha en avant et agita les pieds. Il examina ses orteils et attendit qu'il se passe quelque chose. Durant quelques minutes, il resta muet. Finalement, il leva les yeux et secoua la tête. « Non, dit-il, je ne ressens rien du tout, sauf une petite faim. » Ils étaient assis côte à côte en silence. Ours mangeait un croissant, Pingouin réfléchissait. « Et si je restais ici ?» se dit Pingouin. « Juste un petit moment, jusqu'à ce que ma tempête s'apaise ou que les orteils d'ours le chatouillent. » Ours et Pingouin se mirent en route. L'air était chaud. La mer était froide. Le murmure des vagues atteignant la plage emporta tous leurs soucis. Parfois, ours et pingouins veillaient jusqu'à tard dans la nuit. Ils se racontaient leurs rêves et leurs pensées les plus secrètes. Mais la plupart du temps, ils se comprenaient d'un regard. Ils étaient heureux ensemble. C'est ainsi que l'été s'écoula, sans qu'il le remarque. Un matin, Pingouin se plaça devant la porte, sa valise à la main. Il avait confié son secret à Ours et il avait attendu. Mais son ventre tanguait encore et ses orteils le chatouillaient toujours autant. Rien n'avait changé. « Bon, je vais y aller. » « Déjà ?» Ours n'y comprenait rien. Le vent se déchaînait, le sable s'éparpillait en nuages. Pingouin descendit le chemin de la dune sans se retourner une seule fois. Il ne vit pas qu'Ours le suivait des yeux, désespéré. Ours avait l'habitude d'être seul, mais maintenant il se sentait très seul. Tout plaisir et toute chaleur avaient disparu de la maison en même temps que Pingouin. Il alluma la radio et ouvrit la fenêtre. Une fraîche brise de mer entra dans la chambre. Rien ne pouvait combler le vide que Pingouin avait laissé. Ours scrutait la mer, plein de nostalgie. Le ciel était gris. Une larme coula sur sa joue et disparut dans la mer. Ours n'hésita plus et à sa suite partit à la nage. Pingouin feuilletait un livre sans entrain. Sa tête était agitée et ses orteils le chatouillaient toujours. Il regarda par la fenêtre. Dans son corps, la tempête se leva de nouveau. Dehors, le monde était enseveli sous une épaisse couche de neige. Pingouin ne sentait pas le froid et courut sur le quai. « Reviens !» cria Ours. Il grelottait de froid. Ses mots étaient suspendus entre eux comme des petits nuages de buée. « On est tellement heureux ensemble. Tu m'apaises, tu me réconfortes. et tu me fais rire quand il le faut. Je veux te faire des câlins et prendre soin de toi, parce que je suis le plus heureux quand je suis avec toi. » Pingouin ressentait tellement d'émotion qu'il ne pouvait presque rien dire. Ses yeux pétillaient de joie. Il donna un petit baiser à Ours. C'est ça, l'amour. Un océan d'amour. C'était donc Un océan d'amour de Peter Gaudos-Sabos, publié chez Helium. On vous laisse digérer tout ça, on s'écoute un petit morceau de musique et on revient pour en parler. Ça s'appelle Tarentelle.
Le hasard t'a fait naître petite fille. D'accord maman, je serais bien gentille. Dès le berceau c'est la même rengaine. On vous rabâche tous les jours de la semaine. Être jolie c'est la moindre des choses qu'on te dit tout en t'habillant de rose.
Il faut être sage et bien dévoué. Vivement quand te trouve un fiancé.
Principesse, ça serait pleine d'enfants. Tu t'en occuperas évidemment.
Oui, mais ta principale occupation sera de bien nettoyer la maison.
La 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 la. Mais oui, mais oui, on a bien obéi.
Mais non, je suis pas Cendrillon. Vous les garçons, vous aurez l'ambition pour être ingénieur ou pilote d'avion. Conquérir le monde et sans compassion pour le pouvoir et ses décorations. Pour être fort, il ne faut pas pleurer.
Pas les plus forts pour se faire respecter.
Des dons jouent aussi bon en pantalon.
Et même un amour en panthéon.
Dites-moi, il y a un truc qui m'échappe, l'égalité est passée à la trappe. Fille au garçon, voici les différences qu'on s'est farci de la petite enfance. La la, la la, la la, la la.
Mais oui, je crois que la fête est finie. Mais non, mais non, t'es pas Napoléon. Le premier qui me dit sois belle et tais-toi, je serai plus d'un goûter ma tarte d'or.
Johnny, Johnny, arrête de me faire mal, l'amour qui fait que ça n'est pas normal. Ne prends pas peur, ne m'en fais pas panique. Johnny, monsieur, je suis pas hystérique. Je chante fort, c'est pour qui tu comprends. Apparemment, ce n'est pas de la crème. Viens, Nicole, si tu veux qu'il s'arrête.
Regarde-moi, relève un peu la tête.
Chantons ensemble cette chanson,
c'est parti pour notre révolution.
La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. J'ai compris bien, c'est moi l'expression.
Tu sais que c'est pas que c'est la réveillon.
Mais non, je ne te l'ai pas des talons.
Mais quoi, mais quoi? Le barbecue, c'est moi.
Mais oui, je m'occupe du méchoui. Massi, massi, c'est la cacophonie.
Mais non, je joue pas d'accordéon.
Massi, massi, je sens une accalmie. Mais non, c'est la révolution.
Mais pas de chance, je ne suis pas de France.
Mais pas d'angoisse, je te ferai plus de grimace. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faudrait qu'on s'embrasse. Papa, arrête ton cinéma.
Mais non, maman, faut vivre avec son temps.
C'est la stricte.
C'était donc Tarentelle. Là, c'était Les Ogues de Barbac avec Maria Mazzotta. Et oui, Véro, ton micro était donc branché.
Oh, désolé.
Mais c'est pour ça, on est en direct, donc il peut y avoir des petits couacs, c'est normal.
Et puis c'est le plaisir que vous avez de me tutoyer de temps en temps.
Ah oui, tout à fait. Oups, ça m'a échappé. Hein? Décidément, tout le monde tutoie tout le monde. Juste pour redire un petit mot sur Un océan d'amour, quand même, pour revenir sur ce texte magnifique, sur cet illustrateur aussi. Donc lui, Peter Gaudos-Sabos. Donc je ne sais pas si je le prononce bien, je me doute que non. C'est un auteur originaire des Flandres. Il est auteur-illustrateur. Là, il fait les deux. Hein. Il fait texte et image dans ce bouquin-là. Il est aussi designer et ça se voit dans sa façon de travailler. Je vous conseille vraiment d'aller voir l'illustration parce que si le texte est beau, les illustrations sont vraiment magnifiques aussi. Vraiment, on est pris avec ces deux personnages-là dans un océan d'amour, c'est le cas de le dire. C'était aussi une excellente BD, Un océan d'amour chez Delcourt, d'ailleurs. Donc, c'est un titre qui porte bonheur à ses livres. En tout cas, voilà. Si je vous conseille vraiment d'aller découvrir le travail de cet auteur parce que c'est un livre remarquable. En plus, la fabrication est très belle. Et j'ai vu sur Insta que la couverture, celle-ci, était spécialement française. C'est-à-dire que les autres éditeurs avaient choisi une autre couverture où on les voit les deux qui sont allongés sur la plage. C'est une des images aussi de l'album. Mais vraiment, on vous conseille ce très bel album. On va parler un petit peu de romans. Véronique, oui. Vous avez plusieurs petites séries. Alors, de personnages qu'on connaît déjà.
Très vite, hein, c'est juste pour les rappeler, parce que là, pour Minouche et Jean Minet, c'est le troisième petit roman, le troisième aventure de cette sœur et ce frère, hein, qui Minouche adore son grand frère et Jean Minet trouve sa petite sœur un petit peu pénible. Mais c'est de très belles histoires de fratrie, d'aventure, et c'est pas toujours le plus fort et le plus grand qui a raison. Ou qui résout les problèmes.
Et d'ailleurs, le quatrième tome sort ce mois-ci, donc en novembre. Donc vous êtes carrément en avance. Ça s'appelle Pomme d'amour. Ce sera le quatrième volume de l'histoire.
C'est très très chouette à lire. C'est Moucheron, hein, une belle collection de première lecture chez AVE. De Caroline Fontaine-Riquier.
Qui est la créatrice de Balthazar, le petit personnage avec Marie-Hélène Place. C'est la même.
D'accord.
Voilà. Donc c'est son travail plus personnel en fait, parce que normalement elle est illustratrice, elle est autrice, non, et là c'est son travail vraiment personnel sur un personnage qu'elle a créé elle-même.
Et ben c'est très touchant.
Voilà.
Et Tête de Fesse, qui revient pour souhaiter...
C'est l'ennemi public numéro un de Gertie.
Gertie, voilà, c'est ça. Et Tête de Fesse, son nom c'est Jean-Jacques, hein, c'est un chat quand même avec un égo assez démesuré, qui est assez détestable et on adore le détester, et on finit par l'aimer tellement on le déteste. Et donc là, c'est Tête de Fesse qui te souhaite un mauvais anniversaire, voilà, et donc on va retrouver les personnages de... J'ai plus les noms, c'est super. Voilà, j'ai plus les
Gertie,
noms. Non, il n'y a pas Gertie, il y a les. Enfin, ça va me revenir, vous inquiétez pas.
Et... En fait, ce qui est bien, c'est la version où Tête de Fesse et le narrateur. C'est-à-dire qu'on avait Gertie qui racontait son histoire et où elle voyait Tête de Fesse. Et là, par contre, c'est Tête de Fesse qui raconte sa propre histoire.
Voilà, c'est Fleur.
J'ai comblé en fait le temps que vous trouviez vos personnages.
Merci beaucoup. C'est surtout Fleur qui est gentille mais émotive. Et Stéphanie qui a un problème de prononciation. mais on n'a jamais bien su vu qu'elle ne sait pas prononcer les S. Voilà, qui est une petite hérissonne et Tête de Fesse leur en fait voir de toutes les couleurs. Mais lisez Tête de Fesse au-dessus un petit peu des premières lectures. C'est très illustré, c'est très pétillant, c'est très drôle, c'est très politiquement incorrect comme j'adore.
C'est ça. Tout ce que fait Bertrand Santini, c'est quand même vraiment très, très
Bertrand
bien.
Bertrand Santini chez Sarbacane.
C'est des auteurs très importants. Et voilà. Puis, vous vouliez nous parler d'un roman qui est beaucoup moins drôle.
Ah oui, beaucoup moins drôle.
Un roman très fort, d'ailleurs d'un éditeur qu'on ne connaît pas pour les romans, c'est les éditions 2.
Ben oui,
c'est
j'en ai...
canadiennes.
Oui,
et normalement, on les connaît plutôt pour des albums.
Des bandes
et ça,
dessinées,
je crois
peut-être.
Que c'est leur troisième roman qu'ils publient. Et ils n'y vont pas de main morte. Hein.
Ah non, pas du tout. C'est Christophe Léon qui l'a écrit. C'est illustré par Barou et justement la première de couverture. C'est au crayon. Hein. Enfin, pour moi, c'est au crayon. C'est du noir et blanc. Et c'est un jeune garçon qui est assis sur une chaise en bois et il a une drôle de casquette, de casque sur la tête. Et quand on lit le roman, on s'aperçoit que c'est la chaise électrique. Donc il s'agit d'une histoire vraie d'ailleurs. Que je retrouve.
George Junius Tinney Jr.
Voilà, merci beaucoup, Monsieur Simon, donc qui est le plus jeune noir américain accusé injustement de la mort de deux jeunes filles blanches. Donc, qui sont retrouvées assassinées dans les bois de Redwood, dans le Tennessee, à la fin des années 30. Donc, ce bois, c'est celui où va jouer Martin et ses deux amis dans la semaine, alors que les blancs viennent s'y promener le week-end. Donc, Martin a 11 ans au début. Il vit dans une bicoque avec sa famille très pauvre aux abords de la ville. Il connaît une existence assez misérable, comme beaucoup de ses frères noirs à l'époque. Dans le sud des États-Unis, et malgré son très jeune âge, il va devenir le coupable idéal. Son instruction et son procès ont été expédiés en un éclair et il va devenir le plus jeune condamné à mort de l'histoire des US. Christophe Léon donne la parole à Martin dans ce court texte. Martin est déjà mort. Il l'appelle Missier, celui à qui il s'adresse. Sa parole est vibrante. Il est mort, mais sa parole est vibrante de questions et de questionnements sur la condition humaine, sur la condition d'être humain noir. C'est absolument bouleversant. Il y a aussi les illustrations de Barou qui sont à la fois très esquissées, naïves, noires et blanches, parfois très sombres. Noires et blanches, justement, tout est dit. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux par rapport à cette différence, hélas.
Très, très fort. Ouais.
C'est très fort, très court. C'est un vrai coup de poing. Je m'en suis toujours parmi. Ouais.
à signaler quand même que le Florence Cadier avait parlé du même personnage, donc George Junius Stinnett Jr., donc de ce plus jeune assassiné aux États-Unis dans le roman Né coupable qui était publié chez Talent Haut.
Oui,
donc c'est assez intéressant, mais elle prenait un autre bord complètement beaucoup plus social et en fait remontant sur sa vie. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a deux auteurs qui se sont
emparés. Il a pas été mis en adolescent, vous l'avez pas mis dans les romans ados vraiment.
C'est un peu entre il est accessible, hein,
il est accessible.
La thématique est vraiment très dure.
Tout à fait. Voilà.
Allez, on va reprendre un petit peu d'air avec, on vous l'avait annoncé en début d'émission, c'est l'un des invités donc, de cette émission. Cette personne, c'est Alexandre Chardin, on l'adore d'amour tellement, on aime ses textes. En fait, il a beaucoup écrit pour les 10-12 ans, on se rappelle des vacances d'Apache. Le cercueil à roulettes, tous ces textes en fait, qui nous ont vraiment plu. Il revient avec un nouveau roman, il s'appelle Virgile ou le sceau de l'ange, est publié chez Magnard, et on lui a demandé ce qu'il en pensait. Interview de Alexandre Chardin. Et j'ai le bonheur d'être avec Alexandre Chardin. Merci Alexandre d'être avec nous.
Avec plaisir.
Tu es de passage sur Laval et en Mayenne, et donc je me suis dit c'était l'occasion pour nous de faire un petit entretien autour de ton nouveau roman. Il vient de sortir chez Magnard, ça s'appelle Virgile ou le sceau de l'ange. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu ce roman qui, on va y revenir, nous laisse un petit peu frissonnant, on va dire.
Ouais, alors moi aussi j'ai frissonné en l'écrivant. Pour résumer, donc deux frères ennemis. Donc c'est un peu Cain et Abel, Romulus et Rémus. Et puis j'avais cette idée depuis longtemps des frères ennemis, et j'avais relu Sa Majesté des Mouches de William Golding, et j'ai pris une claque énorme. J'ai trouvé ça extraordinaire. Un des plus grands romans jeunesse, qui n'est pas en fait un roman jeunesse. Mais,
non, il l'a pas du tout écrit pour la jeunesse.
Non, mais avec effectivement deux clans. Et j'ai repris cette histoire des frères ennemis avec deux clans, et je les ai placés, ces deux clans, dans un fort qui existe près de Strasbourg.
Ah, il existe vraiment, ce
fort. Il existe vraiment, et j'y rôdais quand j'étais
flippant,
enfant.
Alors, il doit être super flippant.
Il est hyper flippant.
Il y a l'eau,
il y a les douves,
il y a tout,
il y a les douves.
Tout ce que tu décris dans le roman, c'est dans
ce que je décris. Alors, je n'invente rien au niveau du fort, et effectivement, nous, on y allait, on passait les grilles, enfin, on se fichait la trouille, ça sentait très mauvais, mais on se perdait, c'était un peu labyrinthique, on se demandait, mais là, où est-ce que ça mène, on y allait avec des bougies, des lampes torches, tout ça, on se fichait la trouille, ouais, vraiment, de jour, de nuit, et donc j'y ai mis en fait mes deux clans, et à la tête de chaque clan, il y a les deux frères, donc Virgile et Romain,
qui sont deux frères jumeaux,
ouais, entre qui, il s'est passé quelque chose, donc là, je peux pas en dire plus, mais quelque chose d'assez effroyable, et à partir de ces deux clans, en fait, j'ai décidé que le fort serait le lieu de leur retrouvaille ou de leur perte. Voilà.
Alors, retrouvaille ou perte, effectivement, c'est un peu tout l'enjeu du roman. Il y a une espèce de tension dans ce roman qui monte au fur et à mesure des pages. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu procèdes justement pour faire monter cette pression? Parce qu'on peut vraiment parler d'un thriller psychologique. On est vraiment dans cet état d'esprit de roman.
Ouais. Alors, déjà, il fallait que je les comprenne. Ces garçons, ils sont très différents. Ils sont jumeaux, mais très différents. Et ce qui les a séparés, ils étaient très proches, mais ce qui les a séparés, en fait, les a construits aussi, chacun de leur côté, avec leur haine, avec leur culpabilité. Et en fait, il a fallu que je les écoute assez longtemps avant de me mettre à écrire, et que je les comprenne bien, et que je sache comment ils allaient réagir, l'un loin de l'autre et l'un avec l'autre. Et donc il fallait, je les ai vraiment observés, écoutés, et à partir du moment où je les ai compris, je me suis dit voilà, il faut trouver une cohérence à leur manière d'être, il faut leur trouver une cohérence et une place dans chaque clan, parce que chacun a un clan, et chaque clan en fait a une sorte de psychologie particulière. Alors je les ai observés, et puis au fur et à mesure, d'abord je les ai fait rentrer l'un après l'autre, chaque clan, dans le fort, donc pour prendre possession de ce fort, et puis après il fallait qu'ils s'y rencontrent et qu'ils se confrontent. Ouais. Et donc c'était pour moi vraiment, je m'identifiais tellement à l'un puis à l'autre, que c'était comme s'il y avait une sorte de schizophrénie en me disant à l'intérieur de moi, ben qu'est-ce que je vais faire ? Mm-hmm. Quand ils vont se rencontrer, qu'est-ce qui va se passer ? Et donc en moi, il y avait cette espèce de suspense. Et jusqu'à tard dans le roman, je savais comment il allait finir, mais j'étais moi-même vraiment très tendu.
T'avais peur, quoi,
pour eux. Ouais, j'avais peur pour eux.
T'avais réussi à installer dans ton écriture même.
Oui.
La peur qu'on a en tant que lecteur, en fait.
La peur du lecteur, la peur de l'auteur pour deux personnages que j'aime. Ouais, vraiment profondément, ouais. Quoi, parce que je les comprenais très bien, et l'un et l'autre. La haine et la culpabilité, l'espèce de passion, parce qu'ils restent quand même frères, hein. Mm-hmm. Ils sont frères. Et alors, j'avais vraiment la phrase de fin. Je l'avais.
Ça, tu l'avais dès le début, ça.
Ouais, je l'avais dès le début, mais il fallait. Et c'est là que c'est compliqué. Il faut être en fait à la hauteur de la phrase de fin, parce que c'est bien beau de dire bon voilà, ça va finir comme ça. Une espèce de je sais pas de force. On est en, ouais. Ouais, en fait quand on monte un sommet, il y a toute la montée qui est importante. C'est pas seulement planter le drapeau, quoi. Donc en fait, il fallait que toute la montée soit à la hauteur du drapeau qu'on va planter.
Alors dans ces deux personnages, il y en a quand même un dans les, enfin en tout cas à la lecture, qui prend un peu le dessus. Ouais. C'est lui qui est sur le titre.
Ouais, bien sûr.
Du roman, c'est Virgile.
Ouais.
Et ce Virgile, en fait, c'est celui qui met plutôt en avant le sentiment de haine. Donc c'est vrai que du coup c'est un roman qui est assez âpre.
Oui.
Comment tu penses que les ados vont se l'accaparer, parce que c'est vrai que toute la première partie qui est longue, hein, comme par,
oui, oui.
Qui est plutôt la voix de Virgile, elle rend un sentiment de c'est dur cette violence qu'il a en lui, quoi.
Alors c'est dur cette violence, mais moi je suis toujours assez partagé, parce que très souvent, enfin pour l'avoir entendu, en fait nous en tant qu'adultes, ce qui nous paraît très dur, très âpre, très violent, l'est beaucoup moins en fait pour les ados. Et des fois quand on dit oh ça c'est ouf, ouais. ça remue, en fait des ados vont dire ouais mais ça passe très bien. Alors
tu fais confiance vraiment au lecteur ado.
Ouais, je fais confiance au lecteur ado, et je crois que cette colère, cette rage, on l'a de toute façon à un moment ou à un autre quand on est ado. On a des colères.
On n'a pas tous vécu ce qu'il a vécu.
Ah, non. et puis heureusement.
On le souhaite à personne. Hein.
Non. Et puis moi je l'ai pas vécu, hein. Mais en fait, non. Je pense que ces colères et ces rages, elles sont aussi et dans le roman, ça construit. Et moi j'ai vraiment à cœur, hein, que les ados qui lisent et les lecteurs en fait se construisent aussi avec des histoires. On se construit quand on a 3-4 ans avec des histoires qu'on entend. Max et les Maxi Monstres, ça construit. Moi j'ai à cœur quand j'écris, enfin c'est pas ma volonté, mais j'espère que c'est là, de faire des romans de formation et des romans dans lesquels les personnages changent, évoluent, se construisent, prennent de l'ampleur, et je pense que c'est comme ça qu'on grandit aussi.
Oui, et puis la littérature ado, il y a plusieurs auteurs et autrices qui le disent, c'est aussi la littérature de l'intensité.
Ouais.
Donc c'est là où on peut aussi exacerber ces sentiments qui sont vécus par ces ados d'une manière ultra ultra puissante, quoi.
Ouais, on est dans l'excès. On est dans l'excès, et là, enfin, c'est même pas excessif, parce que vu ce qu'ils ont vécu, de toute façon. Mais bon, le plaisir aussi, c'est souvent comme ça que je construis mes romans. Je pars d'un lieu. Alors là, c'était le Fort Ulrich. Et puis il y a aussi le parc, l'espèce de parc là, qui est à Seignos, en fait, et qui existe.
Qui est
un vrai lieu.
C'est deux lieux différents, complètement. Là.
Ouais, c'est deux lieux différents, mais en fait,
que t'as rassemblé dans le
monde. Ça part de, ouais, je les ai rassemblés, mais, en fait, je suis parti d'une toute petite anecdote à un moment, et je suis passé parce que, on faisait du surf à Seignos, tout ça, et puis je passe à côté de ce parc. Et il y a en fait des skateurs qui passent, et je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce parc, quoi. Ils passent au-dessus du grillage, et voilà, paf, c'est rentré dans ma tête, et après ben les pièces du puzzle.
Et puis pour finir un peu sur ce roman là, y a un aspect qui est souvent présent dans ton œuvre, c'est le rapport à la mythologie.
Ouais.
Avec un titre comme ça, forcément on se doute qu'il y a des références qui sont là. Tu adores ça, en fait. Beaucoup de tes romans sont construits en hommage, ou en tout cas en référence à des mythes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ce moment-là? Bah, t'as parlé d'Abel et Caïn, voilà.
Abel et Caïn, il y a Romulus et Rémus. En fait, la mythologie, je dirais pas que j'y baigne, mais je suis tellement, enfin, ça construit tellement, c'est tellement la littérature. J'adore revenir aux origines, revenir à l'Odyssée, revenir à Homère, revenir à ces textes d'une puissance, d'une dureté. Alors là, pour le coup, c'est âpre, c'est ultra violent. Alors nous, on est des vrais gentils à côté, mais je trouve que ce sont les bases en fait dans lesquelles on peut se nourrir. C'est un terreau extraordinaire dont on peut se servir pour construire encore et encore et encore de la littérature. Donc c'est très rassurant de reprendre ces histoires, de s'en servir, de se servir de ce matériau, de ce terreau pour en faire nos histoires. J'adore la revisitation en fait des mythes, et oui, je m'en sers parce que il y a pour moi voilà, c'est Caron, la barque, elle est toujours là. Je me demande si je mets pas une barque avec un passeur dans tous mes romans, parce que c'est tellement, je trouve ça tellement beau, tellement puissant. Il y a Boris Vian aussi qui s'en est servi de Caron et de sa barque. Le passeur, je trouve que c'est une image, elle est belle, elle est puissante, et je crois que je m'en servirai toujours.
Et évidemment, on peut lire le roman sans avoir aucune référence mythologique.
Aucune.
Par contre, si vous les avez, vous pouvez vous amuser à les repérer.
Ouais, c'est ce petit, voilà, c'est ce petit,
le petit
plus,
jeu de
plaisir. Ouais, mais c'est pas un objectif, hein. C'est pas est-ce que vous aurez la culture de non, pas du tout. C'est que moi je m'en sers parce que je crois vraiment profondément en
moi.
Nourrit,
en fait.
Ouais, c'est ça me nourrit.
Bon, bah merci beaucoup Alexandre pour cette présentation de ton nouveau roman. Ça s'appelle Virgile ou le sceau de l'ange. C'est publié chez Magnard et on peut l'adresser à des ados à partir de 13-14 ans.
Ouais.
Et évidemment aux adultes aussi. Merci beaucoup Alexandre.
Merci
et on
beaucoup
se retrouve pour une nouvelle chronique dans quelques temps.
À bientôt.
Et oui, merci beaucoup Alexandre. En tout cas, c'était un vrai plaisir de l'interviewer sur ce nouveau roman que je vous conseille. Ça s'appelle Virgile ou le sceau de l'ange. Alors, on en a un peu parlé, mais c'est un vrai roman qui prend aux tripes, hein, qui est assez glaçant. Et puis, si vous voulez vous plonger dans cette histoire de ces deux frères, je vous le conseille vivement. Tout à l'heure, Julie, tu as présenté l'émission, enfin, tu as lancé même l'émission carrément avec une lecture, un extrait de Riposte. Est-ce que tu veux bien nous en parler?
Du coup, Riposte de Louise Arid, c'est publié chez Bayard. C'est sorti il y a quelques semaines et ça a été traduit par Clémentine Beauvais. Et c'est l'histoire de Lily, qui est une jeune adolescente grosse qui est harcelée quasiment tous les jours au lycée à cause de son poids, à cause de son apparence, et qui va, grâce à son père et à ses encouragements, s'inscrire à un cours de boxe. Et par ce sport-là, et elle va réapprendre à maîtriser son corps et à prendre confiance en elle et à se pouvoir se défendre et face à ses harceleurs et face à elle-même aussi et à tous ces démons qui trottent dans sa tête. C'est un très très beau roman écrit en vers qui a vraiment ce côté poétique, vers libre bien sûr, mais qui se lit d'ailleurs comme de la prose, mais ça donne une fluidité et c'est pas construit sous forme de chapitres, c'est des très courts chapitres, presque des chroniques avec une thématique, un mot et qui va en s'enchaînant. On la voit dans ces différentes étapes de reconquête de son corps et d'elle-même. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est qu'on a aussi le point de vue de la mère de Lily. C'est d'ailleurs les deux extraits que j'ai lus.
Ouais.
C'était le point de vue de la mère et non de Lily elle-même. Et c'est des passages qui m'ont énormément touchée, puisque la mère est elle aussi grosse et en fait fait face aux mêmes difficultés que sa fille. Les lui a transmises d'ailleurs et à cette espèce de culpabilité qui la tourmente un peu. Voilà, c'est vraiment un magnifique roman qui aborde du coup la grossophobie et qui parle, du coup je fais un gros trigger warning, ça parle aussi d'agression sexuelle et de violence vraiment très dure, très physique, mais avec ce côté avec vraiment une note d'espoir, une touche très lumineuse à travers ces deux femmes qui vivent la même chose de manière différente parce que pas le même âge, pas la même génération, et qui vont apprendre à prendre confiance en elle et à se réaffirmer. Et il y a aussi, je voulais parler un peu de la figure du père, qui est quand même très présente, mais sans prendre la place, et qui a ce côté bienveillant d'encouragement qui les pousse dans leur retranchement.
C'est intéressant aussi d'avoir des personnages masculins qui sont
exactement.
Aussi.
Exactement. J'ai trouvé la figure du père pour le coup vraiment bien, ce qui est pas toujours le cas dans la littérature ado, mais là vraiment il était, c'était vraiment bien fait, j'ai aimé cette présence là.
Et du coup, il faut signaler que l'autrice, elle a déjà publié un bouquin en français, ouais. Ça s'appelle Des bleus au cœur, que je ne connais pas, donc ça peut nous donner envie d'aller voir, ouais. Ça. Merci Julie, on va juste... l'heure passe, on a déjà fini pratiquement l'émission, juste un petit mot sur un coup de cœur BD. Oui. Julie, je te laisse finir avec une BD coup de cœur, avec une série coup de cœur.
Exactement, je vais parler du dernier tome des Contes des cœurs perdus par Loïc Clément et cette fois illustré par Carole Morel. C'est l'histoire, ça s'appelle Merlin et c'est l'histoire de Merlin, petit garçon qu'on croisait déjà dans Chaussette et Jeannot.
Il boucle l'histoire en fait là.
Exactement, il clôt, hein, il fait une espèce de boucle. On retrouve les personnages de Chaussette et Jeannot qui vivent le grand amour, toujours nos deux tourtereaux qui se sont trouvés
octogénaires
à leur âge. Exactement, et c'est un plaisir de les retrouver. Et là, il aborde un peu les thématiques un peu plus adolescentes, puisqu'on a Merlin, un ado, qui fait face au cancer de sa mère. Et à côté, il est tombé amoureux d'une jeune fille de son lycée. Et à cause de ça, il a du mal à gérer ses sentiments entre le chagrin à cause de sa mère et la joie d'être tombé amoureux, d'avoir enfin d'une copine. Et toute cette culpabilité qu'il ressent à cause de ça, j'ai trouvé ça très bien fait, très bien construit, très bien amené, puisque tout ça est vu du point de vue de Chaussette, de la grand-mère qui s'est toujours occupée de lui depuis qu'il est gamin.
Et là, il a retourné en fait l'histoire de Chaussette. Ouais.
Puisque dans Chaussette, c'était Chaussette vue du point de vue de Merlin quand il était petit.
Non, il n'a pas retourné la chaussette, il a retourné l'histoire, Véronique. Il faut suivre un petit peu.
Voilà.
En tout cas, voilà, un gros coup de cœur, effectivement. Désolé, on est un peu pressé par le temps, mais pour cette série, les Contes de cœur perdu, c'est tous les albums BD scénarisés par Loïc Clément avec plusieurs illustrateurs différents.
Exactement.
On trouve Anne Montel, on trouve Carole Morel, mais on en trouve d'autres également. Et ce dernier tome est effectivement très très touchant, je confirme. Merci beaucoup Julie de nous avoir accompagnés sur cette première émission. Ben, je pense qu'on pourrait se renouveler dans l'année. En tout cas, nous on y a pris beaucoup de plaisir. Et puis ça nous apporte un petit peu de vent frais, donc c'est très très bien.
Fait.
Merci beaucoup Véronique.
Au revoir Monsieur Simon.
On remercie évidemment, comme d'habitude, notre ingénieur du son. Hein. Voilà. Merci beaucoup à tous de nous écouter. Vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast sur le site L'Autre Radio. Nous, on vous tape L'Autre Radio, après vous tapez On lit quoi nous et vous trouvez tout ça. Alors nous, on se retrouve évidemment le mois prochain. On se quitte comme d'habitude en musique avec le dernier morceau. Ça s'appelle Original, c'est toujours les Ogs de Barbac évidemment, accompagné cette fois-ci des élèves de l'école Roger Tissot à Grigny. Allez, on se finit avec ça. On vous souhaite un très beau mois de lecture.
Au revoir.
Au revoir.
Je suis un peu spécial. On me le dit. Je suis un peu spéciale.